Moi, je m'appelle Lauriane Turix. Mon personnage, c'est Sarah Luca. Et je dirais que c'est un personnage très extravagant, qui dit tout ce qu'elle pense et quitte à en faire trop parfois. Elle se moque un peu du concours.
Moi, je suis Caroline Descloître, je suis metteuse en scène du spectacle. Et dans ce spectacle, je fais aussi Lou, qui est une présentatrice radio, qui se retrouve à organiser un peu un concours et qui prend quand même beaucoup de plaisir dans ce petit pouvoir que ça lui confère et dans, un peu dans la manipulation quand même de ces autres personnages qui participent à ce concours.
Moi, je suis Charlotte Zuner, je suis danseuse et comédienne dans le spectacle et j'interprète Émilie Placard, qui est un personnage un peu timide, mais à la fois qui a envie de se montrer et qui n'arrive pas trop à se lâcher et qui, par sa façon d'être et de s'exprimer, arrive quand même à dire ce qu'elle a envie de dire.
Alors moi je m'appelle Théo Born et je suis comédien et danseur sur le spectacle. Mon personnage s'appelle Édouard. Édouard, pour le définir, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui se pose pas trop la question du regard des autres, a priori, et qui, en fait, derrière cette carapace qui se donne, a quand même une certaine sensibilité et plein aussi de complexes comme les autres, quoi.
Moi, c'est Alexis, j'interprète le rôle de Claude, qui est plutôt un personnage qui est un peu mythomane, un peu seul dans sa vie, et un personnage un peu de quelqu'un qui fait plein de choses et qui a envie d'être amoureux, mais qui trouve pas l'amour. Enfin, voilà, il passe par différentes choses comme ça.
La compagnie lilloise Hashtag était invitée pour se produire lors de la première édition du festival Audace, organisé par l'association Kessis en collaboration avec le service culturel de l'Université d'Artois. Cette jeune compagnie nous a proposé le spectacle Cohérence des Inconnus, qui revisite le mythe de Narcisse à sa manière. Des danseurs, comédiens et performeurs adeptes du selfie se partagent la scène et participent à un concours qui est à l'initiative d'une mystérieuse radio qui dicte ses lois. La gagnante ou le gagnant deviendra l'objet d'un reportage centré sur l'autoportrait. Rencontre avec la troupe de la compagnie Hashtag, illustrée par quelques extraits du spectacle.
Si on parle justement de l'écriture du spectacle et de la mise en scène, comment toi tu as travaillé alors cette écriture? Vous revisitez quand même un peu le mythe de Narcisse, mais vous l'avez transposé évidemment dans cette réalité, on va dire, à l'époque du selfie.
En fait, je pense que le désir de faire ce spectacle, il est beaucoup né d'un peu d'une contradiction. Pour moi, d'avoir la sensation d'être dans un monde très narcissique, mais où à la fois l'expression de soi n'est pas assez évidente. Enfin, tout est un peu quand même lissé, tout le monde écoute un peu les mêmes choses. Regarde les mêmes séries, au même format. Donc finalement, la part d'expression de soi-même, elle n'est pas si évidente que ça. Et finalement, tout le monde fait des photos de soi, mais les mêmes photos que le voisin. Donc c'était un peu ces contradictions-là qui nous intéressaient. Et donc on a vraiment travaillé en faisant une recherche au plateau, vraiment. Donc on arrivait avec plein de questions, des textes, des photos, des vidéos de youtubeurs complètement inconnus, des travaux de photographes qui ont réalisé beaucoup d'autoportraits, et ça a été vraiment notre matière de recherche. Donc c'était beaucoup de temps de recherche, d'improvisation, avec beaucoup de leurs propositions. Il y a un moment où j'ai vraiment proposé à chacun des interprètes de s'emparer de la démarche photographique d'un artiste qui pratiquait beaucoup, beaucoup l'autoportrait. Et ces temps de recherche-là, après, je les ai digérés et écrits. Enfin, ça a donné lieu au texte, mais qui est vraiment né de leurs propositions. Et on a beaucoup y travaillé à partir d'approches de l'image, en fait, finalement assez, assez différentes, et aussi de comment on naviguait entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire comment, à la fois, on a parfois l'impression d'être hyper particulier, de donner une image de nous qui est très particulière, très singulière, mais en fait, le voisin est en train de faire exactement la même chose, et comment on trouve son individualité dans le collectif. C'était vraiment on va dire, cœur de cible. Et donc c'est vraiment comme ça que ça s'est écrit. Et pareil pour les moments plus chorégraphiés, plus dansés, c'était vraiment de la recherche au plateau. Moi, je suis pas arrivée avec un texte déjà préécrit, ça a été vraiment une recherche collective.
La configuration de ce soir, c'est très proche du public. Il y a du public devant, derrière, sur les côtés. Cette pièce, vous l'avez déjà jouée, forcément. Vous l'avez travaillée toujours dans le même système ou c'est faut vous adapter au lieu ?
On va dire que ce soir, c'était un peu la première fois qu'on expérimentait ce dispositif, parce que d'habitude, on joue dans des salles de spectacle et de manière frontale. Voilà. Mais on avait déjà remarqué que dans certaines salles, plus on était proche du public, plus pour nous, c'était intéressant. Puis il y avait de matière aussi, et on arrivait à recréer, repenser des moments. Et ce soir, ouais, donc c'était la première fois qu'on était en trifrontal, et c'était assez perturbant de l'intérieur, mais en même temps super intéressant. On n'avait pas le choix d'être tout le temps observé et d'être toujours un peu poussé dans le concours, quoi. Donc c'était assez chouette, en fait, comme expérience à refaire.
Ça, pour le coup, ça a toujours été un peu la réalité de notre compagnie, c'est que finalement, on est amené à jouer par les opportunités qu'on a, par les réseaux qu'on a, dans des salles extrêmement différentes, de tailles très différentes, dans des configurations très différentes. Donc nous, on s'est toujours dit qu'on avait envie de pouvoir répondre à toutes ces possibilités de représentation et de rencontres, et du coup d'avoir toujours des formes qui soient vraiment quand même adaptables et modulables. C'est aussi pour ça que c'est techniquement quand même assez léger, que c'est pas une scénographie très lourde, hein. C'est trois chaises, une table et des tapis blancs. Donc c'est quand même assez léger pour aussi pouvoir répondre à ces sollicitations-là. Et puis parce que nous, je crois que ça nous donne quand même beaucoup à chaque fois de matière de nourriture, quoi, pour recréer, pour repenser les choses. Là, je pense que ce qu'on a vécu ce soir, c'était encore différent de ce qu'on avait pu vivre dans d'autres salles, très grandes, très petites. Et ça, enfin moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce travail d'adaptation. Là, la prochaine date de ce spectacle, on le joue par exemple en extérieur.
Après, là, on n'a pas non plus changé énormément de choses, parce que toutes les chorés et même les adresses qu'on a, souvent, elles sont comme ça, assez variées. Et on a juste dû changer. Parfois, il y a des chorégraphies qui sont en ligne. Donc là, on essaie d'ouvrir un peu plus et de prendre en compte vraiment tout le monde. Mais on n'a pas changé tant de choses que ça. Hein. Enfin, ouais, c'était déjà une
info. On a un petit peu adapté des choses pour que tout le monde puisse quand même voir. Parce que c'est vrai que le trifrontal, comme il était ce soir, on pouvait très vite faire dos à beaucoup trop de gens. Du coup, on a un peu réadapté des chorés collectifs, en tout cas.
Du coup, l'interaction avec le public, parce qu'il y en a une aussi, il y en a quelques-unes aussi, c'est aussi d'une nouveauté ou c'est toujours comme ça ?
On essaie un peu de créer spontanément aussi par rapport à là. Et justement, il y a une proximité. Du coup, ça donne envie de créer de nouvelles choses aussi. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas dans, par exemple, spectacle d'avant qui sont apparus là. Parce que ça crée vraiment presque, ça donne envie parfois de briser un peu la frontière qui existe entre le public et le lieu scénique. Et du coup, ça, enfin voilà, en tout cas, ça donne envie justement de créer spontanément des choses et des choses se créent comme ça, quoi.
Les personnages, l'histoire en elle-même, il y a énormément de rapport à soi, mais aussi du rapport à l'autre. Comment vous l'avez travaillé, ça, ensemble ?
Ben, je pense que déjà, ça a été dans le processus un peu de travail. Il y a eu vraiment des temps de recherche individuels, enfin, vraiment, chacun avait à travailler sur tel matériau, tel texte, telle photo. Donc vraiment aussi se construire son bagage à soi dans le travail, et puis vraiment beaucoup de travail aussi collectif. Donc ça, je pense que c'était déjà présent dans la façon dont on a travaillé. Après aussi, la place du collectif pour nous a toujours été... Enfin, on est la même équipe qui travaille ensemble depuis 4 ans et demi. Donc en fait, même quand on travaille des choses individuelles, on le partage aussi très facilement aux autres. Mais en tout cas, dans l'écriture, dans la recherche, il y a eu vraiment des temps, justement, pour comment toi, tu te construis ton bagage à toi, de ton personnage, de ce que ça te raconte, de ta gestuelle, de ton rapport aussi aux autres. Et puis vraiment des moments de travail vraiment plus collectif, beaucoup par le corps. Ça passe quand même beaucoup, beaucoup par ça pour nous, même dans la phase de travail, de recherche.
Sa photo de profil sur Facebook, change sa situation amoureuse aussi sur Facebook. Et là, on se dit que ça va être le sujet du livre, sa difficulté à trouver qui il veut être et avec qui il veut être. Mais finalement, il reste au cœur du livre. Mais ce n'est pas lui le sujet, c'est justement la...
Quel est votre prénom ?
Émilie.
Bonsoir, Émilie.
Émilie Placard, comme le meuble.
Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous nous appelez, Émilie?
Je ne sais pas trop, en fait, comme ça.
D'accord, eh bien...
Dans votre émission, ça arrive souvent. Des gens qui se sentent seuls, des gens tout seuls, et des fois, ils vous appellent pour vous parler de leurs soucis.
Alors, c'est une émission de botanique, ici, Émilie.
Oui, mais c'est la radio, c'est pareil.
Comment ça?
Vous remplissez nos têtes.
Pardon?
Avec vos voix. On vous écoute et vous remplissez notre tête avec vos voix. Vous nous parlez quand on est assis devant notre tasse de café froid qu'on a oublié de boire sur la table pleine de miettes. Il était trop chaud le café et maintenant il est trop froid parce qu'on n'a pas réussi à gérer ça, le temps de refroidissement. On vous écoute quand on reste sans bouger pendant des heures à ne rien faire d'autre qu'écouter le bulletin météo parce qu'on n'a pas la force d'aller chercher le courrier et une peur panique de croiser le voisin qui porte des pantalons affreux à carreaux et qui nous invite toujours à passer boire un verre, un de ces quatre. Puis quand on remonte chez nous, on est vide de force. Et on passe encore une heure assis sur le canapé, le courrier à la main, sans avoir enlevé notre manteau et s'étourdi pour la 15e fois les informations de la journée. Et le soir, eh bien on vous appelle, vous les gens de la radio, pour vous dire qu'on se sent seul. Et pour vous parler de notre chat qui dort beaucoup en ce moment. Et il remue beaucoup moins la queue qu'avant. Et on pensait que c'était les nouvelles croquettes qu'on lui donnait, mais en fait non, parce qu'on lui donne à nouveau les anciennes croquettes. Et c'est toujours la même chose, le chat il remue moins la queue qu'avant. Alors qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais moi je voulais dire, je suis toute seule souvent, et j'écoute la radio et je n'ai pas besoin de vous appeler.
Bien. Alors, pourquoi est-ce que vous nous appelez, Émilie?
Je n'ai pas besoin de vous appeler. On n'a pas besoin de la radio. On n'a pas besoin de vous, ok? Alors maintenant, vous nous laissez tranquille et vous arrêtez de nous appeler pour nous faire parler de notre solitude. Ok? Ok? Vous m'entendez?
On vous entend, Émilie.
Le personnage de Lou derrière le micro, on n'est pas censé la voir, mais les comédiens vous voient. Alors c'est peut-être une sorte de mise en abîme un petit peu, mais il y a une certaine forme de psychanalyse aussi dans le rôle.
Ouais, complètement. Bah, je pense que moi, ça a été très nourri de vraiment même de la figure du pervers narcissique, quoi. Je te caresse dans le sens du poil et puis je te gifle dans la foulée, où vraiment à la fois les encourage à vraiment à s'exprimer, elle leur offre quand même cet espace d'expression, elle les encourage à parler d'eux, à se raconter, mais en poussant assez loin justement l'envie d'entendre les petites fragilités, les petites failles, les petites choses qui feront bien à l'antenne. Donc elle est quand même dans une forme de manipulation psychologique, mais qui peut être... Je pense qu'on peut retrouver dans plein d'autres endroits, en fait. C'est un peu, pour moi, un peu la déviance des espaces d'expression qu'on peut avoir, ou à nous pousser vraiment à tout le temps s'exprimer, parler de soi. Et ça peut aussi... des fois, on n'est pas armé pour livrer tout ce qu'on aurait à livrer. Et du coup, elle joue un peu, je pense, de ce rapport-là. Donc il y a un côté un peu... un peu psy aussi, du fait qu'elle soit à la fois présente et absente. Habituellement, dans les autres configurations, je suis toujours quand même sur le côté de la scène, mais pas dans leur même espace qu'eux. Donc c'est toujours pareil, ce rapport un peu de... Ils peuvent me voir, et à la fois, quand ils sont pris dans leur truc, ils peuvent juste entendre la voix et complètement oublier que je suis physiquement aussi présente.
Parce que le côté pervers est aussi chez les comédiens qui sont sur le plateau, puisque ils osent pas, mais finalement ils osent tout. Si on prend ton personnage, à un moment tu t'effaces complètement, tu dis non, moi j'y vais plus. Ouais. Finalement tu reviens parce que il y a le côté peut-être narcissique qui revient dessus.
Ouais. Bah, ce moment-là, moi c'est un peu pour moi c'est le tournant de mon personnage où pendant tout le long j'ai un truc quand même assez contrôlé et en même temps extérieur. Et à ce moment-là, en fait, j'arrive pas. Je dis que j'arrête et j'arrive pas à ne pas y aller. Et en fait, après, je pète un câble. Enfin, je sais pas, mon personnage, il part complètement. Il y a un espèce de lâcher. Je pense que c'est. Ouais. Mais oui, après, on a tous. On est tous partis aussi de nous, de notre rapport au selfie, de.
J'allais y venir, justement.
Ouais, mais complètement, c'est parti de. Enfin, moi, j'avais un rapport très. Distant de ça, et je comprenais pas, et du coup c'est aussi parti de ça, mon personnage, de non mais en fait c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, enfin c'était, et du coup on se nourrit de nous pour aller vers un personnage et en faire un archétype.
Moi j'y retrouve aussi ce que je peux avoir par exemple par rapport à la pratique du selfie, du côté non mais c'est, hyper narcissique, je comprends pas l'intérêt de se montrer. Mais en même temps, j'en fais quand même, mais moi, c'est pour rigoler. Moi, je le prends pas au sérieux. Et en fait, en même temps, j'en fais aussi. Mais bon, je le fais un peu pour rigoler, donc c'est pas pareil. Et je trouve qu'elle a un peu ça, surtout dans le côté où elle revient. Finalement, elle revient dans le concours en singeant un peu tout ce qui se passe, mais en fait, quand même, elle y revient. Donc, elle est exactement en train de faire la même chose qu'eux, au final.
Nous, c'est un petit peu pareil. On a tous un peu une espèce de motivation différente. On essaie de la trouver intérieurement. Et puis, ouais, pareil, dans la recherche, ce rapport au selfie, à l'autoportrait, on était assez différents là-dessus. Moi, par exemple, j'en fais presque pas. Enfin, pareil, quand j'en fais, c'est pour rigoler. Je sais même pas le faire. Mais quand même, c'est intriguant. Il y a quelque chose d'intriguant. Et puis, on s'est dit que le selfie, c'était pas forcément si intéressant. Que c'était aussi comment on se met en scène aussi dans des situations. Qu'est-ce que l'image qu'on veut montrer de soi aussi. Et par exemple, moi, mon personnage, a priori, il veut montrer une image de lui de mec assez décontracté, qui n'est pas prise de tête et qui ne s'intéresse pas au regard des autres, encore une fois. Mais je pense qu'il ne supporte pas non plus s'effacer et laisser les autres parler à sa place, presque. Et voilà, mais c'est... et après, je pense aussi, les autres aussi, on essaie de le re-questionner un peu à chaque fois, une fois qu'on est au plateau, de pourquoi on fait ce concours. Et franchement, entre nous, à la fin, on se demande qui a vraiment gagné.
Bah oui.
Parce qu'il y a des fois, on se dit... des fois, c'est assez évident. Et des fois, par exemple, ce soir, je me suis senti assez agressif avec les gens, alors que d'habitude, non. Enfin, c'est assez différent, en fait. Et on le sent assez vite quand on sent qu'on a réussi à capter l'attention, capter les sourires, la compassion, presque, des fois, mais... C'est jamais pareil, ça c'est cool.
Bah, moi pour Émilie Placard, il y a ce côté, elle a envie d'y aller, elle a envie de montrer ce qu'elle veut montrer d'elle, mais elle n'ose pas trop, et puis du coup elle est beaucoup en comparaison, elle est beaucoup en observation aussi par rapport aux autres. Et de cette observation, de temps en temps, elle tente des trucs, mais ça reste maladroit parce que dans son corps, elle gère pas trop, du coup il y a... Il y a ce côté, je regarde, j'y vais, mais en même temps, je me gourre, mais en même temps, je re-regarde. Voilà, il y a ces petits allers-retours comme ça tout le temps.
Et toi, Claude, il y a un accessoire aussi qui est important, c'est qu'il y a du maquillage que tu ajoutes de temps en temps par petites touches. Qu'est-ce que ça signifie dans ton personnage?
Bah parce qu'à la base, justement, quand on est parti du personnage de Claude, en fait, on est parti de Claude K1. Donc c'est une femme qui est plutôt en fait androgyne, qui a également les cheveux rasés comme moi. Et du coup, on avait envie aussi de donner cette touche aussi d'androgynité à mon personnage, d'un personnage assez précautionneux, précieux, et qui prend soin de lui malgré que finalement il va voir personne, mais il se fait beau quand même. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me raconte. Voilà, beau avec ses codes, parce que en soi, personne se maquille comme Claude le fait. C'est il est assez étrange, ce personnage. Il essaye de faire de son mieux pour plaire au plus de gens qui, enfin, il veut essayer de plaire aux gens, quoi, même si il le fait pas de la bonne manière.
Tu ne serais pas un peu amoureuse de moi ? Pardon ? Tu ne serais pas un peu amoureuse de moi ?
J'avais entendu la première fois.
Émilie, non, je ne crois pas.
Bien.
Vous avez l'air déçue.
Un peu, c'est non, rien.
Je suis désolée, Émilie. Qu'est-ce que je peux faire?
Tu pourrais peut-être faire un reportage sur moi.
Quel genre de reportage, Émilie?
Sur moi?
Vous êtes dans la botanique?
Non, je me fous des plantes, des fleurs, des arbres avec des feuilles et tout.
Et vous me présenterez votre voisin au pantalon à carreaux?
Je n'ai pas de voisin qui porte de pantalon à carreaux.
Bien.
J'aurais des trucs à dire.
Je n'en doute pas.
Tu veux bien faire ce reportage?
Écoutez, nous devons reprendre notre émission maintenant, Émilie.
Je te confierai des trucs.
Nous devons reprendre.
Tu pourrais l'appeler portrait à raccourci.
Je ne crois pas. Nous allons raccrocher.
Enfin,
merci, Émilie.
Je
ne ferai pas de reportage sur vous.
Mais ce serait une expérience unique. Tu me présenteras, tu raconteras des trucs dans l'intimité et tout. Et il y aura beaucoup de toi là-dedans.
Ok. Ok. Ok, je veux bien faire un reportage sur une inconnue. Ok, vas-y. Vas-y, parle de toi. Parle-nous de toi. Tu es qui?
On t'écoute, t'as des choses à nous dire là ou pas? Bon, c'est pas très intéressant, Émilie, je crois qu'on va s'arrêter
non,
là.
Non.
Et comment est-ce que tu veux que je parle de toi si tu me dis rien? Ok. Attends. Ok, attends, Émilie, on va organiser une sorte de concours. Pour toi et trois autres candidats. Je ferai un reportage sur un seul d'entre vous, celui qui se sera montré le plus percutant, le plus surprenant, le plus digne d'intérêt. Ok, tu es prête, Émilie? Là, maintenant. Allez-y.
Pour reprendre ce concours, ce qui est intéressant aussi dans le spectacle, c'est qu'on a l'impression, enfin moi c'est mon impression, que ça devient de la radio-réalité en fait. Ça aurait très bien pu être une télé-réalité tout simplement.
Ah, complètement. On a même vraiment évoqué l'idée, et sûrement qu'on le fera un jour parce qu'on a très envie de même faire d'en faire vraiment une émission radiophonique et vraiment même diffusée en temps réel. Enfin que vraiment ce concours il pourrait vraiment avoir lieu en temps réel et être télévisé ou radiophonique, mais en tout cas vraiment passer par ce média-là. Puis même dans en rêvant un peu même les suites que pourrait avoir ce projet, ça pourrait complètement être sur des espèces de plateaux télé avec vraiment plein de gens autour sur une plateforme type vraiment concours, podium. Enfin, il y a vraiment. Je trouve que plus ça, plus vraiment c'est un imaginaire qui finalement nous nourrit et nous nourrit aussi dans le rapport au public. Enfin là, par exemple, le fait que les gens soient très proches ce soir, c'était vraiment une configuration. Bah, assez plausible en fait de concours, enfin ou de plateaux où les gens sont très proches, qu'on voit réagir, enfin où les réactions sont vraiment vues. Ça, ouais, ça nous nourrit beaucoup, mais surtout je pense dans le jeu avec le public et puis du coup du regard des autres.
Le personnage d'Émilie, c'est aussi le seul personnage qui apporte un accessoire extérieur, et là pour le coup un téléphone où il y a un titre qui te permet évidemment de faire ta chorégraphie dessus. Alors est-ce que c'est toi qui as gagné ou pas?
Mais bien sûr. Je sais pas si j'ai gagné, mais en tout cas, je pense que Émilie Placard, au fond, elle a un peu gagné sa petite victoire à elle, parce qu'elle arrive à se lâcher et à tout balancer d'un coup, quoi, sur sa musique préférée, quoi. Voilà.
Avant de vous laisser, on va peut-être parler aussi un petit peu de cette compagnie, hein, parce que vous faites plein de choses également. D'abord, le festival Arsène, qui est devenu cette année le festival Audace. Vous y étiez déjà venu, vous aviez déjà présenté quelque chose, je crois, une première pièce.
Ouais, il y a 4 ans, on a fait notre toute première date de toute l'histoire de la compagnie, juste à côté au Théâtre d'Arras pour la clôture du festival Arsène. Du coup, nous, on est vraiment nés là. Donc c'est très chouette pour nous de pouvoir revenir 4 ans après avec... un autre spectacle, et puis tout ce qui s'est passé depuis. Donc là, nous, c'est notre deuxième création. On avait joué donc notre premier spectacle ici, qui après a suivi sa route, et puis qui a rencontré des structures professionnelles qui après nous ont accompagnés et qui ont permis de voir ce deuxième spectacle voir le jour. Et puis après, nous, on travaille beaucoup aussi sur des... Donc on donne beaucoup d'ateliers, on est beaucoup dans des actions de transmission, chacun, et puis beaucoup avec la compagnie. Et surtout, on a aussi... Là, c'est deux spectacles qu'on a créés où on a pris vraiment du temps pour les créer, où c'est des créations vraiment sur le long terme, etc. Mais on a aussi pas mal répondu à des commandes ou à des one-shots. Comme on travaille vraiment beaucoup ensemble, on a un langage commun qui fait qu'on arrive à travailler très vite ensemble et où on va très vite sur des choses. Donc on répond assez souvent aussi à des cartes blanches ou des invitations dans des lieux ou sur une thématique en particulier. Voilà. Donc on a ces deux spectacles qui existent avec d'autres actions autour et d'autres qui vont voir le jour là tout bientôt. Et la compagnie, comme là tous aussi chacun, parce qu'on débute, les deux spectacles qu'on a créés, c'est moi qui suis la metteuse en scène, mais tous chacun on a aussi des envies, tout le monde avait un peu des envies de porter des projets, etc. Donc la compagnie aujourd'hui héberge vraiment des projets aussi de différents porteurs de projets, avec vraiment une volonté aussi de mutualiser à la fois cet outil qu'est cette compagnie et puis nos savoirs et voilà. Donc par exemple Lauriane est là en train de finir une création avec une autre comédienne qui est une création HHTAC, mais qu'on n'a pas travaillé avec cette équipe-là, mais qu'elle a développée dans ce cadre-là. Voilà, moi c'est pareil pour une prochaine création à venir. Alexis, au tout début d'une autre création aussi. Enfin voilà, tous on a vraiment envie que cette compagnie elle soit vraiment un lieu de ressources, un peu un toit sur la tête de ces projets à venir et à se développer, quoi.
Et c'est difficile de, justement, de se plier à des commandes quand on a l'habitude de créer un peu soi-même son propre spectacle.
Bah nous, ça a toujours été des commandes extrêmement ouvertes. C'est-à-dire que, par exemple, c'était vraiment une commande de là, on a envie qu'il se passe un truc au fort du Vergalan avant Brochy pour les Journées du patrimoine et que ce soit à peu près dans 3 endroits. Et là-dedans, nous, on a pu s'en emparer et c'est pas trop contraignant parce que bah, on en l'a utilisé pour prendre le temps de travailler sur des textes ou sur des matériaux qui nous intéressaient et qu'on prend pas forcément le temps si on nous donne pas l'occasion. Donc là, nous, par exemple, avec Théo, à cette occasion-là, on a travaillé sur un texte qui nous plaisait tous les deux, qu'on avait envie d'expérimenter et ça a été l'occasion. Du coup, je pense que ça fonctionne quand on a quand même une marge de manœuvre qui est assez grande pour nous y trouver un peu à bouffer, quoi, artistiquement.
Oui. Souvent, il y a des thématiques qui sont assez larges. Il y a une fois où c'était le langage ou le jeu. Mmh. Et dans ce cas-là, en fait, c'est hyper vaste. Et donc, nous, ça nous permet d'avoir un cadre à notre recherche. Et ça nous emmène dans des directions où on ne serait pas forcément allé de nous-mêmes. Enfin, c'est assez ludique, en fait, de... Souvent, c'était des très bonnes ouais. expériences. Et puis, ça nous permet de jouer des textes qu'on jouera jamais et qu'on montrera jamais parce que c'est pas ce qu'on fait, quoi.
Donnez-moi envie. Montrez combien vous serez des sujets passionnants. Vous avez une heure pour me convaincre. OK ? Alors, on va commencer par un petit test de présentation. Prénom ?
Claude. Je suis quelqu'un de plutôt actif, toujours en
train
de...
Prénom ?
Devine.
Prénom ?
Sarah.
Prénom ?
Édouard.
Âge ?
Moi j'ai 26 ans lundi et je m'appelle Émilie.
32 ans.
Je sais pas, tu me donnes quel âge ?
26.
Mmh. Lieu de résidence ?
Moi j'habite un peu partout.
Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Château.
La jours. Goutte d'Or à Paris.
Lieu de naissance.
Lyon.
À l'hôpital.
Angers.
Paris toujours.
Langue parlée.
Bah français.
Anglais, espagnol, espéranto, chinois.
Moi, film préféré.
Julien
Yacht.
Je regarde pas, c'est quoi
les fois en Amérique.
Fruits préférés.
Fruits préférés. Kiwi, kiwi.
Ah bah, voilà, tout ce qui est
les
fruits,
kiwi,
quoi, comme ça.
La mangue, l'abricot,
hobby.
La pomme.
Là, moi j'aime bien la viande aussi.
Moi j'aime beaucoup, je voyage beaucoup.
J'aime beaucoup le sport. Je suis une grande sportive.
Membre de la famille.
Papa, une maman,
mère,
nombre de livres lus depuis la naissance.
Ah, ça je sais. Alors,
oui, moi je les ai tous comptés.
Je viens de finir les 746.
Ok, projet professionnel.
J'aimerais bien ouvrir un peu de matinée sur Paris.
Amis,
j'ai beaucoup d'amis.
Musique, écoutez.
Amis virtuels. Moi j'écoute du classique.
Situation amoureuse.
C'est compliqué.
Citation préférée. Profession de la mer. Animal totem. Numéro de téléphone. Souvenir le plus douloureux. Croyance. Personne à contacter en cas d'urgence. Adresse mail. Du sucre ?
Non.
Super pouvoir.
Oui.
Fantasme.
Oui.
Signe astrologique. Position préférée.
Assis.
Non, je
odeur de l'enfance. Complexe.
La Madeleine.
Cauchemar.
Oui.
De l'attirance pour votre père ou votre mère.
Ma mère.
Trouble alimentaire. Fragilité. Positionnement capillaire. Attention, sur 10, quelle note tu donnes niveau physique ?
10.
Et vous êtes tous des arts du spectacle, d'une école particulière, ou est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont découvert le théâtre sur le tas, tout simplement, ou la danse ?
Déjà, juste quand même, nous, je pense que notre lieu de rencontre, ça a été l'université, quand on était tous, alors dans des filières différentes, mais et plutôt en fin de parcours. Mais tous, en étant à l'université, on avait des pratiques et des parcours artistiques différents.
J'ai rencontré Caroline et Cécile aussi, une autre comédienne de la compagnie, à l'université. Et moi, à côté, j'étais en formation de comédien d'art dramatique au conservatoire de Roubaix, puis au conservatoire de Lille. Donc, voilà, formation classique de comédien, quoi.
Moi, du coup, j'ai rencontré avant tout Charlotte. On était en licence danse tous les deux. Et donc ensuite, qui m'a fait rencontrer Caroline et qui nous a amené sur le projet Tout va bien, la première création. Et du coup, moi, j'ai plutôt une formation de danseur, du coup.
Ouais, du coup, voilà. Moi, c'est l'école du Ballet du Nord, là où on s'est rencontrés, et le SMD, l'école supérieure de musique et de danse. Voilà.
Et moi, j'ai fait le conservatoire de Roubaix aussi, où j'ai rencontré Théo. Et voilà.
À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes tous intermittents du spectacle. On sait que c'est pas toujours évident. Est-ce que vous êtes soutenu par le CLEA, par exemple, ou...
Ouais. Alors, tous, on est intermittents depuis plus ou moins longtemps, mais là, aujourd'hui, dans la compagnie, on l'est tous. Et aujourd'hui, la compagnie arrive à quand même nous faire une partie, en tout cas, de cette intermittence, via les actions aussi de transmission, les ateliers, les spectacles, tout ça. Donc ça, c'est une première chose. Après, tous à côté, on travaille avec d'autres compagnies, et voilà. Mais après, ce spectacle-là, ça a été notre premier soutien vraiment, on va dire même financier, de coproduction, par exemple, de la MAC de Salomine. Voilà. La saison prochaine, on va être en effet en CLEA sur Lens-Liévin. Donc, il a vraiment un dispositif de présence artistique vraiment financé par des sous publics. Et puis, notre prochaine création aussi, puisque nous sommes sauvages, là, elle bénéficie de soutien, notamment dans un dispositif qui s'appelle Apinès, qui est financé aussi par la région, enfin voilà, par petites touches. Jusqu'à présent, c'était quand même beaucoup de les créations, c'était beaucoup de l'autofinancement, quoi, d'économies, d'ateliers qu'on arrive à injecter dans la création, pas beaucoup, en se payant pas trop sur les répètes. Là, aujourd'hui, on commence à avoir une économie un petit peu plus stable, même si ça reste précaire et puis toujours très ponctuel. Enfin, on sait que, par exemple, on va avoir une très belle année la saison prochaine, et en même temps, derrière, ben, on sait pas.
Oh, tellement détendu. Allez, vas-y, laisse aller. Ok, vas-y, danse. Allez, vas-y, lâche-toi. Petit déhanché du bassin. Mouvement long, on travaille bien. Et que tu exécutes avec un tel naturel. Attends, ferme les yeux, concentre-toi. Plus personne ne te regarde. Continue de te montrer. Allez, amuse-toi. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Oublie la dégénérescence de tes organes, hein. Plus de doute. Allez, vas-y. Danse. Bon, c'est ridicule ce que vous faites, hein.
Alors, Sarah, j'ai l'impression que là, tu essayes de nous dire quelque chose, en fait, de nous faire part d'une certaine angoisse, peut-être.
Ah, oui. Ah bah oui, allez. L'angoisse de Sarah.
Et pour terminer, avec votre premier spectacle, je pense que vous avez eu des prix. Est-ce que ça a eu un impact vraiment sur la compagnie? Et puis, il y a aussi des lieux, des endroits, des villes. Je pense notamment à Avignon. Est-ce que vous y avez déjà tâté, où on se fait remarquer justement en tant que compagnie?
Ouais, ben, donc nos toutes premières dates du premier spectacle, on avait en effet eu le coup de cœur du jury au Festival interuniversitaire de Lille 3. On avait participé au concours national du Crous à la finale à Nancy. Ça, évidemment, déjà, ça a été des dates où on a pu jouer, et c'était quand même les premières, et où on avait besoin de ça pour roder le spectacle, pour aussi rencontrer des professionnels, parce que mine de rien, on a quand même réussi sur ces dates-là à rencontrer des gens qui ensuite nous ont accueillis soit en résidence, soit ont accueilli le spectacle dans des cercles, on va dire, plus professionnels. Après, les prix en eux-mêmes, bon, ça nous apporte un peu de sous, des fois. Ce qui était bien.
Une reconnaissance.
C'est pas ça qui a... Je pense que juste le fait déjà d'avoir ces dates-là dans ces festivals, c'était super. Je suis pas sûre que le prix en lui-même ait beaucoup changé de choses. Mais en tout cas, ça a été quand même nos premiers espaces de visibilité. En fait, enfin, nous, pour le coup, on vient vraiment de là, quoi. Donc ça a été quand même vraiment nos premières dates. Et puis oui, qui nous ont permis de rencontrer quand même les professionnels qui nous ont accompagnés ensuite, et Avignon, peut-être un jour.
Trip, she's the last one you call. When your car doesn't start, but she lights up the party when you need a little spark. She never has no money, just runs down her neck. Never had a man that wouldn't have her back. You're not at all in the running, but you'll take what you get, whatever. morsels that just drip, 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 drip. Like pulling drip, 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 drip. She's stunning, drip, 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 drip. Been near her, drip, 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 drip. You know you'll take what you can. Clever things she says, you could coin every phrase. Her body's so rocking that your mind in a haze. It's one of those things, once you're caught in the net, whatever sweet little morsels you will take, what you can get. You know you take what you can get. You know you take what you can get. On and on, on down the road, take your moment in the glow. There's no one way to do it, there's no one way to win, but we already know you're gonna take what you can. On and on, on down the road, take your moment in the glow. There's no one way to do it, there's no one.
C'était un sujet autour du spectacle Cohérence des Inconnus, proposé par la compagnie lilloise Ej Ej Tak lors de la première édition du festival Audace, organisé par l'association Kessis en collaboration avec le service culturel de l'université d'Artois.